Appel d'un mouvement, votre émission bimestrielle de musique et société, à retrouver un vendredi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. L'appel d'un mouvement, San Francisco et le rock psychédélique. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'appel d'un mouvement. Moi, c'est Nayla et pour ce dernier épisode de la saison, je vous propose un focus sur l'émergence du rock psychédélique dans le San Francisco des années 60. Cette émission sera donc à base d'acide lysergique diéthylamide, plus communément appelé LSD, d'une jeunesse hippie prônant le flower power et de musique psychédélique pour lesquelles l'expérimentation était la clé et l'expérience multisensorielle le but. Et le tout aura donc pour décor le quartier de Haight Ashbury à San Francisco, véritable berceau de la contre-culture des années 60 aux États-Unis.
Fall in hell or so angelic, you'll need a pinch of psychedelic.
Pour sonder l'enfer ou prendre un envol angélique, prenez donc une pincée de psychédélique. C'est avec ce très court poème qu'est inventé en 1957 le terme psychédélique par le psychiatre britannique Humphrey Osmond, alors qu'il cherchait un nom pour qualifier la mescaline, cette substance hallucinogène qu'il a testée depuis peu. La mescaline est créée en Suisse au début des années 40 par le chimiste Alfred Hoffmann alors qu'il chercha un médicament capable d'agir sur la circulation sanguine. Parce que la substance ne satisfait pas ses recherches, il s'en détourne quelque temps. Et c'est en 1943 qu'il cesse de bouder la mescaline et, alors qu'il la manipule à nouveau, il en ingère par accident. Et là, commence un trip qui bouleverse l'après-midi de notre cher chimiste suisse, tout comme l'Amérique sera finalement bouleversé une décennie plus tard avec la large diffusion du LSD au sein de la jeunesse. En attendant, toujours dans les années 50, Hoffman envoie des échantillons de mescaline à divers chercheurs dans le monde. Et c'est là qu'entre en scène le psychiatre britannique Humphrey Osmond et qu'il propose le terme psychédélique. Pour l'anecdote, le terme est trouvé alors qu'il entretient une correspondance avec le poète Aldous Huxley, lui aussi initié à cette drogue hallucinogène. C'est donc entre deux poèmes partagés avec Huxley que l'idée du terme psychédélique germe dans l'esprit d'Osmond. Issu du grec psyché, qui signifie l'âme, et délein, qui signifie ce qui révèle, psychédélique renvoie donc à ce qui révèle l'âme, ce qui permet une élévation de celle-ci ainsi que l'expansion de la conscience. Interviewé sur les vertus de la mescaline, le poète Aldous Huxley expliquait alors que cette drogue pouvait être particulièrement bénéfique pour toute personne ayant des idées trop arrêtées, des personnes envisageant le monde et la société dans laquelle ils vivent comme la seule réalité possible alors qu'il existe tout un tas d'autres univers et dimensions à explorer, et pour lesquels on devrait se sentir reconnaissant. Mais on reviendra plus tard sur le personnage d'Huxley, en évoquant notamment la manière dont ses écrits ont inspiré un des plus grands groupes de cette période, voire de l'histoire du rock. En attendant, je vous laisse avec un extrait de l'interview en question.
In your book about mescaline recently, you talked of a valuable state of heightened perception being induced by drugs, by proper drugs. Do you think imaginative writers would benefit by that?
Well, I think the people who would benefit most of all are professors. I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what to take this thing and to realize that the world he has constructed is by no means the only world, that there are these extraordinary other types of universe which we may inhabit and which we should be very grateful for inhabiting, I think.
C'est ainsi que LSD et psychédélisme deviennent des facteurs clés de la contre-culture des années 60, puisqu'ils vont permettre cette expansion de la conscience qui est à la fois moyen et fin du mouvement Flower Power. Allié à la musique de l'époque, le LSD engendre le rock psychédélique, aussi appelé acid rock, et qui correspond à une musique largement inspirée du folk, du blues et du rock, à partir de laquelle on va expérimenter grâce aux innovations technologiques et chimiques de la période. On retrouve des sonorités plus atypiques avec l'introduction de nouveaux instruments à l'exemple du sitar indien ou encore grâce à des effets de saturation, de distorsion ou encore d'écho. Les morceaux se font de plus en plus longs et l'improvisation est au cœur du processus de création des musiciens qui n'hésitent pas à faire de leurs concerts de véritables jam sessions. Grâce à ces innovations et à la consommation de LSD, la performance musicale devient alors une expérience collective pour un voyage multisensoriel, une quête vers d'autres dimensions de la conscience. Un groupe pionnier du genre psychédélique est celui des Grateful Dead, originaires de Californie. À la moitié des années 60, ils sont notamment connus pour leurs jam sessions et leurs longues impros lorsqu'ils sont sur scène. les Grateful Dead participaient à ce qu'on appelait les acid tests, c'est-à-dire des concerts prenant la forme de jam sessions où les musiciens et le public étaient sous LSD. Ils avaient notamment lieu dans les salles de concert telles que le Fillmore et le Longshoremen's Hall à San Francisco. Pour un aperçu de ces acid tests, je vous laisse maintenant avec une session des Grateful Dead jouée en 1966 et précédée d'un petit commentaire de la femme du chanteur, Caroline Garcia, commentaire qui nous met dans le bain de ces jam sessions maintenant mythiques.
They were noisy, they were really brash, they played excruciatingly long songs, incredibly loud, and most folks just weren't ready for it.
Anybody that can power. Produce steady power!
You got the power!
Power!
Come on now! Get some power up here on the stage!
Our best technicians are now on the problem.
All right, turn up the microphone.
There you go. Yay, yay.
Confusion, dread confusion.
Yay, now we're going to get you some sounds, Pigpen.
Thank you.
C'est donc avec les Acid Test et la naissance du groupe d'acid rock que San Francisco est devenu, dès 1965, le berceau du mouvement psychédélique. Mais si les Grateful Dead sont des pionniers du genre, c'est avec un autre groupe que le terme psychédélique fait son entrée officielle dans le monde de la musique. Il s'agit là du groupe 13th Floor Elevator, pour lequel on appréciera la référence mystique du 13e étage qui n'existe pas dans les ascenseurs, référence qui nous met tout de suite dans le bain d'une dimension parallèle et tout autre. Et c'est donc avec leur album The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator que le groupe officialise en quelque sorte le genre. Bien évidemment, on s'illustre tout ça et je vous propose qu'on s'écoute de ce pas le titre Kingdom of Heaven des 13th Floor Elevator, sorti en 1966. En 1966, la communauté hippie est bien installée à San Francisco. À cette époque, les loyers n'y sont pas chers et la ville attire étudiants, artistes et marginaux. Le mouvement du Flower Power s'y développe et la jeunesse prône la vie en communauté et le retour à la nature, avec un fort attrait pour la spiritualité et la philosophie orientale. Anticonformiste, cette jeunesse rejette les valeurs traditionnelles de la société américaine et prêche une sexualité libérée. Ce mouvement bourgeonne sur fond de lutte pour les droits civiques et de guerre au Vietnam. D'ailleurs, la jeunesse américaine aura pour revendication phare la dénonciation de cette guerre et n'aura de cesse de demander son arrêt lors de multiples manifestations. À ces manifestations, on s'exclamera alors « Faites l'amour, pas la guerre » et les écritures « Peace and Love » recouvreront bon nombre des pancartes en véritable slogan de cette contre-culture. La drogue et la musique apparaissent ainsi comme des instruments pour élargir les consciences mais aussi pour échapper à la réalité et la peur de la guerre. En somme, ce sont des armes pour lutter contre l'establishment. À cette époque, l'âge moyen d'un GI au Vietnam est de 19 ans. la menace d'être appelé à tout moment pour faire la guerre est donc réelle pour les jeunes. Alors la révolte n'en est que plus extrême et le leitmotiv « Make love, not war » incarne cette opposition essentielle à la survie d'une génération.
We're living in the middle of a beast. Lyndon Johnson is a common murderer and should be arrested for murder. There are no limits to dissent. I think the peace movement should have the anger of a Vietnamese woman whose child was burned by napalm, dropped by American planes, way up there in the sky. That's the anger the peace movement should reflect. The peace movement's got to go into the streets, and it's got to use the tactic of disruption, because the American people are drunk with apathy, because they don't care.
A lot of people say to me, what are you doing? You're not doing any work. You're not working at a job and making a big salary. But we're doing the hardest work in the world because we're growing. We're trying to change. And that's a lot harder than staying in the same rut and going along year after year doing the same thing and thinking the same things and living the exact same way.
On a donc d'un côté une jeunesse à la recherche de liberté et d'une communauté où l'amour règne, et de l'autre, la réalité de la lutte pour les droits civiques et la menace de la guerre. Un morceau qui incarne parfaitement ce double tableau n'est autre que White Rabbit, de Jefferson Airplane. Le groupe, originaire de San Francisco bien sûr, s'inscrit parmi les pionniers du rock psychédélique, et dans White Rabbit, ce tube de l'été 1967, issu de leur album Surrealistic Pillow, Jefferson Airplane pose le décor. Relatant d'un trip au LSD, le morceau comporte des références à Alice au Pays des Merveilles, dont l'univers distordu, surréaliste et hypnotique se prête au psychédélisme. Mais le morceau semble aussi nous mettre en garde sur cette réalité sous-jacente, celle de la guerre, mais aussi celle du risque d'un trip long, bien trop long, qui finirait par essorer les consciences et non plus les élever. Alors, la voix de Grace Leak se fait grave, les percussions du morceau quasi martial et le rock plus politique. Et bien sûr, on s'écoute ça de ce pas.
One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Get up and tell you where to go.
En janvier 1967, au Golden Gate Park de San Francisco, a lieu le Human Being, soit un des événements majeurs de la contre-culture des années 60. On parle là de plus de 20 000 personnes qui rejoignent San Francisco pour participer à cette journée placée sous les signes du LSD, du Peace and Love et de la musique. L'idée est d'écouter du son, tous ensemble, et sur scène, les Jefferson Airplane, Grateful Dead ou encore Big Brother and Holding Company viennent jouer. Gratuitement bien sûr. Poètes et activistes prennent aussi le micro. On peut penser à Allen Ginsberg, célèbre poète de la génération beatnik, de ceux qui sont appelés les rebelles sans cause et qui sèment le trouble dans une Amérique puritaine et traditionnaliste des années 50. Une décennie plus tard, Allen Ginsberg galvanise toujours ses publics en délivrant des textes et mantras faisant les louanges des drogues hallucinogènes notamment. Le poète croit au rôle essentiel que les drogues telles que la marijuana et le LSD peuvent jouer dans une société. Il explore ainsi, au travers de ses écrits, les différents modes de conscience possibles tout en flirtant avec des influences orientales. Mais il n'est pas le seul à prêcher ainsi l'usage des drogues et je me dois ici de mentionner le véritable pape du LSD, Timothy Leary, qui est également présent au Human Being. Anciennement professeur de psychologie à l'université d'Harvard, il affirmera avoir eu une révélation lors de son premier trip en y découvrant l'existence d'univers autre que notre réalité. Liant ainsi l'expérience hallucinogène au mysticisme, ce rebelle et libre penseur aux allures de gourou n'aura de cesse de répéter son mantra « Turn on, tune in, drop out ». Avec ces mots, Leary invite son public à se brancher sur les ondes du psychédélisme et laisser le LSD leur ouvrir les portes d'un monde nouveau, refusant la routine conformiste et consumériste de la société américaine. L'ancien professeur de psychologie devient ainsi le plus fervent des défenseurs du LSD, alors même que cette drogue est interdite aux US à partir de 1966.
We tell young people today, drop out of school, because schools, education today, is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote. These are old men's games, impotent and senile old men that want to put you onto their old chess games of war and power. Drop out. Tune in with natural things. Take off your shoes. Get back in tune with God's harmony. Surround yourself with beauty and sacred objects. You can't get caught in the conforming, rote lockstep, which we call American society.
Alors, même si l'émission se concentre sur San Francisco, car berceau de cette nouvelle musique, je vous propose qu'on se balade un peu en Californie, notamment du côté de Los Angeles, pour mesurer l'impact de la contre-culture et du psychédélisme à une un peu plus grande échelle. À cette époque, un groupe émerge dans la Cité des Anges et s'apprête à laisser son nom dans l'histoire de la musique rock. Il s'agit des Doors. Littéralement les portes en français, les Doors s'appellent ainsi d'après un poème d'Aldous Huxley. Je vous avais dit en début d'émission que l'on reviendrait sur ce personnage qui correspondait avec Humphrey Osmond et vantait les mérites du LSD pour lutter contre l'étroitesse d'esprit. Eh bien, on peut maintenant s'intéresser à ses écrits, car il lui est arrivé, à l'issue de ses trips, de relater ses expériences hallucinogènes, et c'est ainsi qu'est né le poème « The Doors of Perception ». Vous l'aurez compris, c'est de ce poème qu'est inspiré le nom du groupe des Doors. Par leur musique expérimentale, leurs paroles mêlant surréalisme et mysticisme, naviguant ainsi dans les champs de la conscience, les Doors jouent une musique psychédélique. Jim Morrison puise ainsi son inspiration dans les écrits d'Aldous Huxley, bien évidemment, mais aussi d'autres poètes et philosophes qui abordent les thèmes de la transcendance et de la spiritualité. Sur scène, le chanteur se fait provocateur et le caractère transgressif du groupe est vite mis en avant. On peut penser à leur passage télévisé dans l'émission du Ed Sullivan Show en 1967, lors duquel la production leur avait demandé de changer les paroles de leur morceau Light My Fire, puisque le mot « high », référence à la drogue, était jugé inapproprié. Mais vous l'aurez vu venir, au moment de la chanter, Jim Morrison ne censure absolument pas les paroles. Oubli de sa part du fait du tract ou pure attitude contestataire, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas la controverse naît et les médias ne manquent pas de s'emballer. Entre expérimentation, mysticisme et provocation, le tout agrémenté de paroles parfois très sombres, les Doors ont marqué la contre-culture des années 60. Alors, pour s'illustrer tout ça, je vous propose le morceau « When the Music's Over » des Doors, sorti en 1967.
Thank you. when the music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special friend,
continue notre balade en Californie pour faire un stop au Monterey Pop Festival. À ce stade, l'année 1967 marque déjà un tournant pour la contre-culture et le psychédélisme, avec le Human Being en début d'année et les multiples sorties d'albums d'acid rock. Le genre se concrétise ainsi et prend définitivement son envol avec le Monterey Pop Festival, moment culte dans l'histoire du rock. Il joue des groupes parmi les plus célèbres du moment, Grateful Dead, Jefferson Airplane, mais aussi Big Brother and the Holding Company avec Janis Joplin, Country Joe and the Fish, Les Who, Ravi Shankar et bien d'autres. Et puis un petit nouveau, qui atteint la renommée nationale à l'issue du festival et qui incarne à lui seul une facette particulière du psychédélisme, si bien que l'on peut se demander si l'acid rock a inspiré sa musique ou si ce n'est pas plutôt lui qui a défini le genre. Je parle ici de Jimi Hendrix et de son groupe The Jimi Hendrix Experience. Sa performance au Monterey Pop Festival restera dans les annales, déjà pour sa musique, mais aussi parce que, concluant son concert, il met le feu à sa guitare et la sacrifie sur scène. Cet acte, tel un rituel, lie d'autant plus la musique au mysticisme et chamanisme qui nourrissent les valeurs du mouvement psychédélique. Un morceau qui dépeint la technique novatrice d'Hendrix et dont le titre fait référence à l'univers de la science-fiction n'est autre que son célèbre Purple Haze, sorti en 1967, et qu'on s'écoute de ce pas.
We'll be right back. put a spell on me.
Un autre groupe présent au Montreux Pop Festival et sur lequel je voudrais m'arrêter est celui de Country Joe and the Fish. Le groupe, originaire de San Francisco toujours, marquera les esprits pour son caractère particulièrement engagé. Largement inspiré des protest songs qui font la notoriété de la musique folk à cette période, Country Joe and the Fish mélange folk et acid rock dans leurs morceaux. On peut penser à leur titre « Feel like I'm fixing to die rag » dans lequel ils dénoncent ouvertement la guerre du Vietnam et qui deviendra d'ailleurs un hymne anti-guerre dans la seconde moitié des années 60. Mais pour vous donner un aperçu de la musique de Country Joe and the Fish, c'est leur morceau Bass String que je voudrais vous faire écouter, issu de leur album Electric Music for the Mind and Body, et paru en 1967, et dans lequel on ne manquera pas de remarquer l'intonation hypnotique de Country Joe lorsqu'il susurre LSD à la fin du morceau. Montreux Pop Festival marque ainsi le début du fameux Summer of Love de 1967, pour lequel San Francisco fut le lieu de prédilection. Les rues sont envahies par la jeunesse hippie, les concerts se multiplient dans des salles cultes telles que le Fillmore ou l'Avalon Ballroom, et la drogue ne cesse de circuler. Malgré l'apparente allégresse ambiante, pour certains, le Summer of Love revêt avant tout d'une illusion collective et fantasmée, née d'un besoin fatidique d'échapper à la réalité de la période. La quantité de drogue en circulation fait des dégâts et dégrade la santé des jeunes, les autorités font la chasse aux dealers puis aux hippies, des jeunes se retrouvent à mendier, bref, tout un tas de facteurs qui justifient une vision pessimiste et crue de l'été 1967. Mais pour d'autres, et tel qu'il est resté dans les mémoires, le Summer of Love fut l'apogée de la contre-culture. Ce grand mouvement de convergence vers San Francisco, alors qualifié de ville-état psychédélique, de la jeunesse américaine regroupée autour des valeurs hippies et manifestant clairement son caractère contestataire mais pacifiste et sa volonté de former une seule communauté. La musique reliait tous ces individus et sur les murs de la ville fleurissaient d'innombrables affiches annonçant tel ou tel concert. Et si le psychédélisme suggère des sonorités particulières, l'aspect visuel et esthétique s'en trouve tout autant transformé. Alors, sur les affiches, on retrouve une calligraphie imposante et bariolée, des vives couleurs, des motifs floraux inspirés du mouvement Art Nouveau et notamment du célèbre artiste Alphonse Mucha. D'ailleurs, les détails et couleurs sont si présents que les informations se perdent presque dans tout ce décor. Le ressenti que l'on éprouvait en regardant l'affiche primait ainsi sur les informations qu'on y trouvait et qui ne venaient que dans un second temps. Les pochettes d'albums reflètent-elles aussi très vite cette nouvelle tendance esthétique, comme on le voit par exemple sur les pochettes d'Hendrix, Jefferson Airplane, The 13th Floor Elevator ou encore celle des Grateful Dead, dessinée par le graphiste de renom Stanley Mouse. Les vêtements aussi avaient une esthétique particulière. Veste à franges, blouse de couleurs audacieuses, foulard dans les cheveux, cheveux longs bien sûr, et pantalon pas de def. Bref, le flower power s'écoutait, se contemplait, se portait, se vivait ainsi dans cette mini-utopie que fut le quartier d'Aitashbury lors de l'été 1967. À partir de cet été, les disques de rock psychédélique se font de plus en plus nombreux, le mouvement ayant pris une ampleur non négligeable à l'échelle nationale, mais aussi mondiale. Bien entendu, en Californie, les groupes se multiplient. On a notamment Iron Butterfly, groupe d'acid rock considéré comme précurseur du heavy metal, qui se fait un nom avec son célèbre In a Gadda Da Vida, morceau qui dure 17 minutes et dont je vous propose d'écouter un extrait avec la version éditée.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. In a god of Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat?
Bien sûr, je ne pouvais pas faire un épisode sur le rock psychédélique et la contre-culture des années 60 sans mentionner l'édition mythique du festival Woodstock de 1969. Véritable apothéose, le festival a vu déferler, sur la côte Est cette fois-ci, donc je vous l'accorde, on n'est plus à San Francisco, il a vu déferler des centaines de milliers de jeunes hippies. Prévu pour environ 50 000 personnes, c'est près d'un demi-million de festivaliers qui prennent part à l'événement et malgré la cohue générale, les conditions météorologiques et les retards importants des concerts, Woodstock 69 a marqué l'histoire de la musique, mais aussi l'histoire sociale, comme véritable moment d'unité regroupant tout ce petit monde autour de la musique, dans une atmosphère de paix et d'amour. Après Woodstock, la contre-culture s'essouffle, voire s'effondre. Entre la répression de l'État, la récupération commerciale de l'esthétique hippie et sa marchandisation, des dérives sectaires telles que la Manson Family, communauté hippie entre guillemets, qui commet une série de meurtres sordides à la fin de la décennie. Bref, tout un tas de facteurs qui font que la contre-culture prend fin petit à petit. Bien sûr, le mouvement ne s'est jamais complètement éteint et a laissé un héritage non négligeable constituant une véritable révolution culturelle et sociale, aux États-Unis mais aussi en Europe, avec par exemple les Beatles à cette période, mais aussi les Pink Floyd qui faisaient leur début. Concernant l'héritage, on peut mentionner la manière dont, dans une certaine mesure, l'acid rock a inspiré l'acid house, un genre de musique électronique ayant émergé dans les années 80 et qui paraît assez éloigné du rock psychédélique, mais qui comporte certaines similarités, notamment au niveau de l'expérimentation musicale et l'usage de drogues telles qu'ecstasy et LSD. Mais bon, je m'étale un peu trop là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le premier épisode de L'Appel d'un mouvement à propos de Berlin et la techno. À ce stade, on peut dire que la boucle est bouclée. L'émission du jour touche à sa fin et vous pourrez retrouver l'épisode et sa tracklist sur le site de Radio Campus Paris. Je vous laisse maintenant avec un dernier morceau d'un groupe culte originaire de San Francisco, encore et toujours, Quicksilver Messenger Service. Il s'agit de la partie 2 de leur titre Who Do You Love, issu de leur album Happy Trail, sorti en 1969. Album phénoménal que je ne peux que vous inviter à écouter en entier. Et si mon avis ne vous suffit pas, fiez-vous au classement 2003 des 500 meilleurs albums de tous les temps proposé par le Rolling Stone Magazine et dans lequel Happy Trail se trouve en 189e position. Belle perf. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle saison de L'Appel d'un mouvement. I got a cobra snake for a necktie. Got a house by the roadside made out of rattlesnake hide. Got me a chimney made out of dime. You know it's made from a human skull. Come on, take a little walk. Tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Love.